Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges. Juges, chapitre 10. Nous continuons notre série dans ce livre. Nous allons voir le chapitre 10 en entier. Juges, chapitre 10. Nous commençons la lecture au verset 1. Et voici donc la parole de Dieu. Après Abimélec, Tola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Issacar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans, puis il mourut et fut enterré à Shamir. Après lui se leva Jaïr, le Galaadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils, qui montait sur 30 anons et qui possédait 30 villes, appelées encore aujourd'hui Bourg de Jaïr, et situées dans le pays de Galaad. Et Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Verset 6. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain dans le pays des Amoréens en Galaad. Les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » L'Éternel dit aux enfants d'Israël « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Ammon, des Philistins ? Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Mahon vous opprimèrent et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains ? Mais vous, vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez, invoquez les dieux que vous avez choisis. Qu'il vous délivre au temps de votre détresse. » Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, « Nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. » Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. Les fils d'Ammon se rassemblèrent et campèrent en Galaad, et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitzpah. Le peuple, les chefs de Galaad se dirent l'un à l'autre, « Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Ammon ? Il sera chef de tous les habitants de Galaad. » Et jusque-là, la parole de Dieu. Je pense que beaucoup d'entre nous, un jour ou l'autre, nous avons fait un tour de manège, que ce soit dans une fête foraine ou sur un parc d'attractions, peut-être même dans le hall d'une grande surface. Et ces manèges apportent joie et divertissement, pas seulement pour les jeunes, mais aussi pour les parents ou les grands-parents qui s'amusent à voir passer leurs enfants ou leurs petits-enfants et qui leur font un signe à chaque passage. Mais le cauchemar sur un manège, ce serait d'imaginer que l'on est sur un manège qui est géré par quelqu'un qui est méchant et qui refuse d'arrêter le manège pour vous laisser descendre du manège. Et ce manège ne cesse de tourner, de tourner, de tourner. Et à chaque fois que vous passez devant celui qui est en contrôle, il se moque de vous, il se rit avec un de ses rires méchants. C'est une image du péché. Beaucoup de personnes sont tourmentées dans leur conscience à cause du péché, parce que Dieu a écrit sa loi dans la conscience Et les gens savent instinctivement qu'ils sont en train de faire le mal. Ils aimeraient arrêter. Ils aimeraient sortir de ce cycle où ils essayent de faire le bien, mais ils tombent sans cesse dans le péché. Ils essayent d'échapper, mais ils trouvent que leurs efforts sont encore une fois futiles. Et c'est l'image des juges. C'est l'image que l'on a dans ce livre des juges. Le peuple d'Israël a encore péché, ne comptant pas sur Dieu, préférant se tourner vers les faux dieux qu'adoraient leurs voisins. Dieu, dans sa grâce, a discipliné ce peuple qu'il a choisi en envoyant des ennemis pour opprimer. Au bout d'un certain temps, le peuple a fait la connexion entre son péché et l'oppression et il a crié à Dieu pour son aide. Et Dieu, dans sa grâce, a suscité un libérateur qu'il allait utiliser pour chasser l'oppresseur. Le peuple pouvait ensuite jouir de la communion avec Dieu pendant un certain temps, mais rapidement, il se remet à servir d'autres dieux et il retombe dans le cycle. Et le cycle ne cesse de tourner. Comment ce peuple que Dieu a choisi pouvait-il descendre de ce manège? De ce manège du péché une fois pour toutes. Le chapitre 10 de ce livre des juges est unique comparé au reste de l'histoire des juges. Dans ce chapitre, on trouve le récit très court de deux juges au début du chapitre avec très peu d'informations à leur sujet, au sujet de leur ministère. Et l'essentiel de ce chapitre et contient la description de ces tours de manège qui ne cessent, le manège qui ne cesse de tourner. Et on va frayer notre chemin à travers cette description pour arriver à la conclusion, à ce dernier verset où nous avons cette question importante. Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Amon? Quel est l'homme qui nous délivrera? C'est la question que tout pécheur doit se poser s'il veut un jour descendre du manège du péché. Quel est l'homme? Bien sûr, la réponse, Wayne l'a souligné déjà dans la présidence, la réponse nous est donnée dans l'Évangile, la réponse nous est donnée en Jésus-Christ. Et c'est en fait toute l'histoire des juges. Cette histoire nous montre comment il est futile pour les hommes, pour les femmes, d'essayer de trouver la paix avec Dieu en cherchant à garder sa loi. Ça ne marche jamais. La loi nous rappelle sans cesse que nous avons besoin d'un rédempteur, besoin d'un libérateur. Et ce libérateur, cet homme, n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Il met un terme à ce cauchemar du manège du péché. Ce manège qui ne s'arrête pas, il nous fait descendre de ce manège. Mais donc, premier grand point, les juges appelaient Tola et Jaïr, et nous l'avons dans les 5 premiers versets. Après Abimelech, Tola arrive pour délivrer Israël, verset 1. Après Abimelech, Tola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Issacar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. On n'est sans doute pas surpris de lire qu'après le désastre d'Abimelech qui s'est fait passer, qui a prétendu être le roi, le buisson d'épines, hein, c'était sa description, Israël avait besoin d'être délivré parce qu'Abimelech n'a pas vraiment servi en tant que chef, en tant que leader du peuple d'Israël. Il a causé la division, il a causé le conflit parce qu'il était centré sur lui-même. Mais le peuple aussi, la nation entière servait Baal d'une façon ou d'une autre. Et c'est donc toute la nation, tout le pays qui avait besoin de guérison, besoin de revenir à Dieu. Et on a la grâce de Dieu, la pure grâce de Dieu. Voilà le peuple qui a complètement abandonné l'Éternel. Ils avaient décidé d'être conduits par un homme que l'Éternel n'avait pas choisi, qui s'était autoproclamé roi. Et Israël est tombé très bas. Et il ne crie même pas à Dieu dans la repentance. Pourtant, Dieu va leur envoyer Tola et Jaïr pour être les juges qu'Israël ne demande pas. Le peuple ne s'est toujours pas repenti. Il n'est pas revenu à Dieu. Est-ce que Tola va les aider à faire cela? On ne le sait pas trop. Tola est un juge obscur. On ne sait rien de son père. On ne sait rien de son grand-père. On connaît simplement la région. Mais cela ne nous donne pas plus d'informations. On ne sait même pas où se trouve Shamir. On connaît la montagne d'Éphraïm, qui se trouve à environ 30 km au sud d'Issacar, là où Tola est sans doute né. Mais l'obscurité entoure aussi le ministère de Tola. Le texte nous dit que Tola s'est levé pour délivrer Israël, mais on ne sait pas de qui. Il n'y a aucune bataille, aucune guerre qui ne lui est attribuée. Et cependant, Dieu a utilisé ce serviteur pendant 23 ans. Tola fut juge en Israël pendant 23 ans et il mourut, il fut enterré à Shamir. Le terme juge, rappelez-vous, veut décrire celui qui s'est assis pour juger, c'est-à-dire que le peuple d'Israël allait vers lui pour entendre les décisions de la part de l'Éternel. Et c'est tout ce que nous savons au sujet de l'œuvre de Dieu à travers Tola. Et puis arrive un deuxième, du nom de Jaïr, qui a conduit le peuple d'Israël pendant 22 ans. Verset 3, « Après Tola se leva Jaïr, le Galaadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. » Tola, l'inconnu, a servi de connecteur avec Abimelech, le fameux. Jaïr, l'inconnu, a servi de connecteur avec Jephté, le fameux, qui vient après lui. Et Jephté, nous allons le voir, Dieu voulant, la semaine prochaine, vient de la même région que Jaïr, de Galaad, qui est une région à l'est du Jourdain, qui allait, si vous regardez une carte, de la pointe nord de la mer Morte jusqu'à pratiquement la pointe sud de la mer de Galilée. Une des premières sections de la terre de la promesse qui a été conquise. Une région très riche, très fertile pour les cultures, pour les pâturages des troupeaux. Et d'après les informations que l'on a dans ce texte, on pourrait conclure que les temps étaient plutôt favorables pour Jaïr. La prospérité de son temps se révèle peut-être dans ce chiffre 30, qui semble être un nombre important pour Jaïr, versets 4 et 5. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 anneaux et qui possédaient 30 villes. C'était sans doute une de ces périodes de repos dont parle le livre des Juges. Ces périodes pouvaient durer 40 ans, 80 ans. On le lit au chapitre 3, par exemple. Et le fait que ces 30 fils montaient sur 30 anneaux et possédaient ou supervisaient 30 villes décrivait probablement la paix, la prospérité, le repos pendant cette période. Mais cette image nous rappelle qu'en temps de paix et de prospérité, nous avons une tendance à devenir négligents, léthargiques dans notre marche avec le Seigneur. Quand les choses vont bien, on n'est pas aussi dépendant du Seigneur que l'on devrait l'être. Et quand on ne dépend pas de lui, on s'éloigne de lui. Et quand on s'éloigne de lui, on se dirige vers le manège du péché. Et c'est là que le cauchemar recommence. Et donc le deuxième grand point, qui est le point le plus important, la description de ce cauchemar. Et petit a, l'histoire de Dieu révèle que son peuple refait un tour de manège. Le peuple a péché. C'est un refrain qu'on entend, qu'on lit souvent dans ce livre des Juges. Les enfants d'Israël, verset 6, firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La même chose que la dernière fois. Ils ont choisi de servir les faux dieux de leurs voisins. Ils servirent les Baals, les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Et Dieu a évalué leur choix comme étant mauvais, c'est-à-dire le contraire de bon. La loi de Dieu a dressé ce choix devant nous en Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. La vie vécue dans sa plénitude, en communion avec Dieu. Ça, c'est ce qui est bien. Vivre en communion avec Dieu. Rejeter Dieu entraîne le mal qui conduit inévitablement à la mort. La mort physique, la mort spirituelle. Et le mal cause des dégâts, cause de la souffrance, de la misère, pas seulement selon l'évaluation de Dieu, mais aussi dans l'expérience. Et pourtant, l'homme et Satan cherchent à réinterpréter le mal. Le prophète, ou Dieu, pourtant parlant par le prophète Ésaïe, Ésaïe 5, verset 20, dit ceci, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien ». Et le bien mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Mais on voit cette tentative folle aujourd'hui, dans pratiquement chaque partie de notre culture, des célébrités jusqu'aux politiques, des personnes qui veulent redéfinir le mal. Dire transformer le mal et dire que c'est bien. Et inversement, dire que ce qui est bien est mal. Il vaut mieux pour nous d'identifier ce que Dieu appelle mal et de l'éviter, afin de ne pas goûter le fruit amer dans nos vies avec les conséquences du mal. Il est facile pour nous d'être agité, même en colère, avec le déluge continuel dans notre culture pour faire le mal. Le mal est emballé de façon très attrayante. Il nous est présenté comme quelque chose d'incontournable par les influenceurs, par les personnes qui connaissent le succès, mais quel est le résultat? Très souvent, la lumière des projecteurs, les belles maisons, le divertissement, le sentiment du succès et du pouvoir que l'on peut voir dans nos grandes villes semble quelque chose d'attirant. Et c'est de cette façon que le mal nous est présenté. C'est attirant. Mais qu'est-ce qu'on a lu ? Est-ce qu'on a lu au sujet des sans-abri, des clochards qui sont une nuisance pour les habitants et pour les touristes ? Est-ce qu'on a vu les images montrant les déchets, les ruelles jonchées de seringues laissées par les drogués? On ne nous présente pas ces choses-là. Cela ne va que s'empirer, parce que ce que Dieu appelle mauvais et déplaisant finira par s'avérer mauvais et déplaisant pour le peuple. Et ce qui était mauvais pour Israël, c'est que le peuple avait choisi de servir les faux dieux. Les idoles, les termes Baal et Astarté étaient les faux dieux communs. Malheureusement, parmi les Israélites, Baal était le dieu mâle qui était adoré de plusieurs manières. Astarté, c'était la contrepartie femelle de Baal. Et en plus, le texte nous dit que Israël a choisi de servir les faux dieux de Syrie, de Sidon, de Moab, d'Ammon et des Philistins, de tous les voisins. Israël voulait se rendre acceptable aux yeux des voisins. Mais comment le peuple pouvait-il avoir un impact pour l'Éternel parmi les voisins s'il cherche à ressembler à ses voisins? Il ne peut plus avoir d'impact. Et quelle que soit leur excuse, le peuple d'Israël a choisi de vivre comme les pécheurs autour d'eux. Et cela a été mal aux yeux de Dieu. En choisissant d'autres dieux, le peuple d'Israël a abandonné, rejeté le seul vrai Dieu. Personne ne peut servir deux maîtres. Quand le peuple s'est tourné vers d'autres dieux, la fin du verset 6 nous dit « Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus ». Dieu ne partage pas son temple avec un autre dieu, avec un faux dieu. Dieu avait choisi Israël pour être son peuple spécial, avec autant de dévotion qu'un homme choisit une femme pour être son épouse. Et seul un pervers penserait à partager sa femme avec un autre homme. Dieu était jaloux pour ce peuple qui l'avait pourtant abandonné, qui avait refusé de le servir. Et parfois, nous devons nous asseoir et faire un bilan de notre vie. Est-ce que nous essayons de servir les idoles de nos voisins en même temps que nous essayons de servir notre Sauveur qui nous a délivrés de l'esclavage du péché? Qu'est-ce que va faire le Dieu plein d'amour et de grâce quand son peuple l'abandonne pour les faux dieux imaginaires qui ne peuvent offrir que le mal? On le voit dans le texte, Dieu discipline son peuple. Et encore une fois, il les a vendus entre les mains de leurs ennemis, verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Parce que Dieu est parfaitement saint, il est jaloux pour son peuple. Et parce que Dieu est jaloux pour son peuple, il se mettra en colère quand son peuple l'abandonne. La colère de Dieu est toujours une colère juste. Elle est vécue comme une colère par l'homme. Il n'est donc pas sage de mettre en colère le Créateur de l'univers, le juge éternel qui peut faire ce qu'il veut. Et dans la discipline qu'il a rendue, Dieu a permis à son peuple d'être écrasé, d'être opprimé par ses ennemis pour un temps. Les Philistins et les Amoréens, verset 8, opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens, en Galaad, à un moment donné, une année bien précise, Dieu a vendu son peuple entre les mains des Philistins et des Amoréens. Et leur attaque contre Israël était écrasante pendant 18 années. 18 ans, c'est l'âge de Nathan, enfin un jour près. Mais 18 ans, Dieu a permis aux Amoréens d'opprimer le peuple d'Israël. Et Dieu n'est pas satisfait de permettre une oppression locale ou même une oppression tolérable. Et Dieu va élargir la discipline et permettre une détresse sévère, verset 9. Les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Après avoir assujetti le peuple d'Israël à l'est du Jourdain, les Amoréens ont traversé le Jourdain et s'attaquent à deux des plus importantes tribus d'Israël. Et en un mot, toute la nation était dans une grande détresse à cause de la discipline de Dieu par la main des Amoréens. Si vous souffrez de claustrophobie, vous comprendrez ce mot « détresse ». Ça veut dire être pressé dans un endroit qui est trop petit, où on ne peut plus bouger, on ne peut plus se retourner. C'est le cauchemar du technicien qui vous met dans l'appareil pour une IRM, et puis il oublie que vous êtes là. Il éteint les lumières, et il rentre chez lui. Et là, on est coincé. Voilà la détresse. Voilà la détresse du peuple d'Israël. Petit B. Malade du péché, le peuple crie à Dieu. Le peuple était malade des conséquences du péché qu'il avait commis en abandonnant Dieu. Il a reconnu son péché. Il a admis qu'il avait offensé l'Éternel. Verset 10, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant « Nous avons péché contre toi ». Ils étaient d'accord avec Dieu qu'ils étaient passés à côté de ses standards de justice. Ils étaient d'accord avec Dieu que leur choix avait été une attaque contre Dieu. Les Israélites ont clairement identifié leur péché. Ils ont péché, verset 10, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. Le peuple a offensé Dieu en manquant de lui faire confiance, ce qui se manifeste par le peuple qui ne dépend plus de Dieu, qui ne vit plus dans une dépendance de Dieu. Et rien ne change, rien n'a changé aujourd'hui. On démontre qu'on ne fait pas confiance en Dieu quand on se tourne vers des idoles, vers des dieux imaginaires. Être désolé pour avoir commis un péché, c'est bien. Dire la même chose que Dieu au sujet du péché, c'est bien. Mais parce que le peuple avait tendance à tourner en rond sur cette question, Dieu va répéter le cycle pour leur rappeler combien ils étaient inconstants, combien ils étaient capricieux. Et là, c'est Dieu qui leur parle directement. Ce n'est plus un juge. C'est Dieu qui leur parle directement. Il leur dit que dans sa grâce, il avait délivré le peuple à de nombreuses reprises dans le passé. Verset 11, l'Éternel dit aux enfants d'Israël, « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Ammon, des Philistins ? Lorsque les Sidoniens, Amalek et Mahon vous opprimèrent et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains ?» Dieu avait été plein de grâce envers ce peuple en le délivrant. Délivrant ce peuple qu'il avait choisi de l'esclavage d'Égypte. Et même après avoir établi le peuple dans la terre de la promesse, il les a délivrés à plusieurs reprises de l'oppression de leurs ennemis. Mais malgré la grâce de Dieu, le peuple l'a rejeté. Et donc Dieu lance cet ultimatum sévère, verset 13. « Mais vous, vous m'avez abandonné, vous avez servi d'autres dieux. » C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Personne ne pouvait nier qu'ils avaient abandonné Dieu. Mais qu'en est-il de la réponse de Dieu? Est-ce que Dieu n'allait réellement plus les délivrer? Certaines de ces personnes sont mortes sans être délivrées de l'oppression des Amoréens. Des années plus tard, des milliers d'Israélites qui avaient rejeté l'Éternel sont morts entre les mains des Assyriens, des Babyloniens. De manière générale, Dieu va sauver ce qu'on appelle le reste. Mais sur le plan individuel, Dieu peut choisir de ne pas délivrer. Mais il va sauver le reste. Et la grâce incroyable de Dieu le pousse à manifester sa compassion envers nous. Et pour mettre à l'épreuve la sincérité du peuple, il leur lance ce défi. Allez, verset 14, invoquez les dieux que vous avez choisis. Qu'il vous délivre au temps de votre détresse. Dieu leur montre que leur demande n'est simplement que la demande d'un faible envers un plus fort pour qu'il le soulage de sa misère, alors que la repentance, c'est une conviction du cœur, une haine de ce qui a été fait sans tenir compte des conséquences. En d'autres mots, le peuple était désolé pour les conséquences de leur péché, mais pas désolé pour le péché lui-même. Il est possible de se détourner de l'idolâtrie d'une façon idolâtre. Et c'est ce que faisait le peuple. Ils considéraient l'Éternel comme s'il était une de leurs idoles, mais plus forte que les autres. Ils essayaient d'appuyer sur les bons boutons, de faire les bons sacrifices dans le but qu'il exerce sa puissance en leur faveur. Mais le peuple a compris le point que Dieu fait, le point que Dieu soulève. Parce que leur demande au verset 15 n'est pas la même au verset 10. Avant, ils étaient focalisés sur leur confort. « Seigneur, viens réparer. Viens réparer le problème. » Maintenant, ils confessent leur péché avant de supplier que Dieu leur vienne en aide. Verset 15, « Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, « Nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. » Seulement daigne-nous délivrer aujourd'hui. Traite-nous comme il te plaira. » Ils sont prêts à reconnaître que Dieu n'est sous aucune obligation d'enlever leurs difficultés. Mais ce qu'ils veulent, c'est retrouver la communion avec Dieu. Et à cet effet, le peuple a abandonné son péché. Verset 16, « Ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. » Le peuple s'est mis à servir l'Éternel. Quand le peuple a vu la détresse, quand Dieu a vu la détresse de son peuple, ce peuple qu'il avait choisi, quand il a vu la confession de leurs péchés, leur repentance et leur misère qui continuait, son cœur a été ému. La phrase tout qui est traduite par « il fut touché » des mots d'Israël peut aussi être traduite par « l'Éternel ne put supporter plus longtemps les souffrances d'Israël ». Oui, Dieu envoie la misère, Dieu envoie la souffrance sur son peuple pour révéler le péché de son peuple. Dieu discipline son peuple parce qu'il sait que cela est bon et nécessaire pour nous. Mais comme un père, comme un mère envers son enfant, Dieu est heureux quand il voit son peuple confesser son péché, se repentir, parce qu'il peut commencer à enlever la pression. Tout cela est encourageant, mais les conséquences du péché continuent à tourmenter le peuple. Verset 17, « Les fils d'Ammon se rassemblèrent et campèrent en Galaad, et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitzpah. » Pourquoi Dieu permettrait-il cela après que le peuple ait confessé ses péchés et se soit repenti? Parce que nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin d'apprendre et nous sommes lents à apprendre. Dieu, qui est notre enseignant, connaît notre condition spirituelle. Il connaît notre besoin. Il sait combien nous sommes déficients dans notre connaissance pratique de lui. Parfois, c'est une question pour le pécheur de dire les bonnes paroles, de montrer des signes de repentance, mais sans vraiment être né de nouveau. Et l'enseignant, notre enseignant, Dieu, dans sa grâce, va continuer à appliquer une pression constante dans la vie du pécheur pour amener ce pécheur au bout de lui-même. Une bonne indication que nous arrivons au bout de nous-mêmes, au bout de l'autosuffisance, c'est quand nous posons la même question qu'a posé le peuple à cette époque. Qui est l'homme? Qui peut nous délivrer? Verset 18. Le peuple et le chef de Galaad se dirent l'un à l'autre, « Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Ammon? Il sera chef de tous les habitants de Galaad. » Dans le cycle des juges, cette question va trouver une réponse temporaire dans la personne de Jephté au chapitre suivant. Le peuple languissait après un autre juge qui se lèverait pour les délivrer. Peut-être qu'à ce stade, ils ont finalement réalisé que c'est Dieu lui-même qui devait pourvoir un libérateur pour eux. Mais à la fin, la réponse ultime à cette question, qui est l'homme, qui peut nous délivrer? La réponse ultime est le Seigneur Jésus-Christ. Toute l'histoire des juges souligne que les hommes ne peuvent pas plaire à Dieu en vivant sous la loi. Et nous ne pouvons pas plaire à Dieu même s'il place des autorités humaines au-dessus de nous. La section suivante de l'histoire d'Israël va révéler que même dans une théocratie, quand un bon roi règne sur le peuple avec un cœur pour Dieu, le peuple ne peut pas plaire à Dieu. Toute cette histoire sert à ouvrir la voie pour le libérateur parfait, le seul qui peut nous délivrer de la puissance et de la misère du péché, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Pilate a répondu à cette question, « Qui est l'homme? Quel est l'homme ?» quand il a présenté le Sauveur torturé, souffrant, revêtu d'une robe pourpre avec une couronne d'épines sur la tête, qu'il a dit à la foule, « Voici l'homme !» Et nous disons, oui, voici l'homme, effectivement. Voici l'homme parce qu'il est notre seul libérateur. Le Seigneur Jésus-Christ est notre seul libérateur. Nous venons à lui esclaves de nos péchés, offensant aux yeux de Dieu, confessant nos fautes et l'implorant de nous pardonner. Et notre Sauveur nous lave avec son propre sang. Il nous purifie de nos péchés, nous revêt de sa propre justice. Ça ne s'arrête pas là. Comme nous vivons dans un monde pécheur, portant une nature pécheresse, une chair pécheresse, Nous avons tendance à nous éloigner de notre dépendance envers Dieu. Et quand Dieu, dans sa grâce, nous fait prendre conscience de notre éloignement, il nous fait revenir à lui. Nous confessons nos fautes et il restaure notre communion. L'apôtre Jean nous rassure avec ses paroles en 1 Jean 2, versets 1 et 2. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, c'est-à-dire les péchés de tous ceux qui croient en lui, où qu'ils soient dans le monde. » Nous sommes faits comme les Israélites. Nous avons la même nature pécheresse qu'eux. C'est pourquoi nous savons qu'il est très facile de s'éloigner de Dieu. Nous devons donc aller vers le Sauveur, vers le Seigneur Jésus-Christ, vers le Libérateur, confesser nos fautes, confesser nos péchés, vivre dans une foi totale en lui seul pour notre salut. Pas dans nos œuvres, ou quoi que ce soit, en lui seul. Et chaque jour, nous avons besoin d'aller à lui, besoin de reconnaître nos fautes, de confesser nos péchés, sachant qu'il nous lave, comme il a lavé les pieds des disciples, parce qu'il ramassait la poussière du jour. Nous avons besoin qu'il nous lave pour que nous puissions jouir de la communion avec lui, de la communion avec le Père, mais aussi de la communion les uns avec les autres. Et c'est de cette façon que nous descendons du manège du péché. Alors venons à Christ et à lui seul. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.